Monsieur, bonjour. Un jeune sur cinq en Belgique vit dans la précarité. C'est le thème de la campagne de l'Avent que Vivre Ensemble organise chaque année. Alors cette année donc, focus sur les jeunes. Pour parler de cette campagne, j'ai invité deux personnes. D'abord Jean-Paul Chabal, qui est le directeur de Vivre Ensemble. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Et ensuite Mathieu Danero, qui est coordinateur pédagogique à l'association Chaumière, dont nous allons parler plus en détail tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Paul Chabal, la situation des jeunes, est-ce qu'elle est vraiment plus difficile? Bon, on sait que c'est la crise, mais est-ce que la situation des jeunes est vraiment plus difficile que celle des autres catégories de la population?
Oui, je pense vraiment que oui. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a aussi deux autres catégories de personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés. Je pense aux personnes âgées de plus de 75 ans et je pense aux femmes seules avec des enfants. C'est aussi deux autres catégories de population qui ont vraiment beaucoup de difficultés. Mais au niveau des jeunes, si on regarde les chiffres, hein, comme vous l'avez dit, il y a 22% des jeunes de 16 à 24 ans qui vivent avec un revenu ou dans une famille avec un revenu en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire un jeune sur cinq. Par comparaison, les personnes de 25 à 65 ans présentent un taux de pauvreté de 15% seulement, entre guillemets seulement. Un autre chiffre interpellant, je pense, qui montre bien que la pauvreté touche très fortement les jeunes, c'est le fait qu'à peu près aujourd'hui, 30% des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale sont des jeunes de moins de 25 ans. C'était un jeune sur quatre en l'an 2000 et c'est un jeune sur trois aujourd'hui.
Mmh, donc ça progresse. Et bon, on dit un jeune sur cinq, donc ça veut dire que pour les quatre autres, il n'y a pas de problème?
Dire que ça va bien pour les autres, non, ça je ne pense pas qu'on peut le dire parce que les difficultés de trouver un emploi qui sont vécues vraiment par des jeunes qui sont dans la pauvreté, elles ne se présentent pas uniquement, je pense, pour les plus précarisés. Maintenant, des jeunes qui ont fait des études universitaires ont aussi des difficultés à trouver un emploi, doivent aussi faire des petits boulots, etc. Donc je pense que la pauvreté touche aussi plus largement l'ensemble des jeunes et c'est sans doute dû un petit peu à la société, je dirais, dans laquelle on est. Hein. 60% des jeunes pensent qu'ils ne vont pas mieux vivre que leurs parents. Et on est dans une société qui adopte un modèle économique quand même très, 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 très néolibéral, qui survalorise la compétition. Il faut être un gagnant, il faut être un compétiteur, qui survalorise la consommation, il faut acheter, il faut posséder, la communication aussi. Et donc je pense que c'est l'ensemble de notre société qui ne propose pas véritablement des projets aux jeunes. Or, quand on est jeune, 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, quelque part on a l'avenir devant soi, on a théoriquement des projets, des perspectives. Et je pense que beaucoup de jeunes se sentent bloqués finalement dans la société telle qu'elle est aujourd'hui.
Et justement pour ces 20% de jeunes, vivre dans la précarité, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça se traduit dans la vie quotidienne?
Je dirais qu'il y a surtout des difficultés, je vais dire, au niveau de l'emploi, au niveau du logement, au niveau des revenus. Bon, si je prends un exemple, il y a 20 ans, c'était possible pour un jeune de trouver très rapidement un travail, d'avoir un contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, pour les jeunes, ils doivent faire énormément de petits boulots, ils doivent attendre beaucoup. C'est difficile pour eux de trouver un premier emploi. Il faut attendre 5 à 10 ans pour avoir finalement un emploi un peu stable. De nombreux jeunes aussi, je pense, vraiment ont de grosses capacités à pouvoir payer un loyer, à pouvoir occuper un logement décent. Ils sont obligés de trouver un petit peu des alternatives pour vivre à deux, à trois, ensemble, trouver un petit peu de la débrouille, ou bien de rester chez eux. Il faut savoir que les jeunes aujourd'hui, les jeunes hommes aujourd'hui, quittent en général la maison familiale à 26 ans et demi. Donc ça montre bien qu'ils doivent rester très longtemps avant de pouvoir finalement se débrouiller par eux-mêmes. Et donc, en plus, quand des jeunes, en plus de ça, ont un parcours chaotique au niveau scolaire, ont des difficultés au niveau familial, n'ont pas confiance en eux, ben finalement, c'est un petit peu toutes les perspectives d'avenir qui sont bloquées pour eux.
Mmh. Mathieu Danero, ça fait écho peut-être à ce que vous vivez au quotidien. Vous travaillez dans une association qui s'appelle donc Chaumière. On va peut-être préciser comment ça s'écrit parce que ce n'est pas évident.
Oui, c'est La Chaumière.
La Chaumière.
Oui. La Chaumière, ça s'écrit C-H-O-M avec un accent circonflexe apostrophe I-I-R. Donc c'est un habile jeu de mots pour faire dire aux gens qui viennent chez nous qu'on espère qu'en passant par chez nous, le chômage sera quelque chose qui est passé et qu'ils arriveront à trouver un emploi.
Et donc vous travaillez dans quel quartier?
Et nous travaillons à La Cun dans le quartier Boxtal.
Mmh. Et donc là-bas c'est un public principalement étranger?
Essentiellement étranger, donc, mais on fait plusieurs choses, on travaille, donc l'essentiel de l'activité qu'on a c'est de l'insertion socio-professionnelle, et dans ce cadre-là on organise des formations en alphabétisation, donc pour des adultes qui dans 99% des cas sont des étrangers, puisqu'ils viennent pour apprendre le français, à le lire et à l'écrire. Donc ça c'est le gros de notre activité. Ensuite on a aussi des formations en alphabétisation dans le cadre de l'éducation permanente. On a un projet d'économie sociale sous forme d'un restaurant social qui s'appelle La Cafette, auquel je vous invite à venir parce que c'est très bon.
Nous n'y manquerons
pas.
Et
en plus, c'est pas cher, tous les midis de la semaine. Et on a aussi une école de devoirs donc, qui est essentiellement axée sur le public adolescent primo-arrivant.
On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. On va déjà lancer notre première pause musicale. Je vous propose d'écouter Louis Chédid et son fils qui chante « Tu peux compter sur moi ».
Si jamais tu cherches un refuge, une place où personne ne te juge, tu trouveras toujours chez moi un endroit qui ressemble à ça. Si un jour tu sens le besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur tes peurs, si tu en as gros sur le cœur, tu peux compter sur moi. Sur moi, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur moi. Je n'ai pas de bagage magique, docteur miracle, tout le cirque. Mais si tu pars à la dérive, je serai là quoi qu'il arrive. Ça ne s'en va des paroles en l'air. La déclaration d'ami, peut-être un peu d'amour aussi. Tu peux compter sur moi. 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 Quelle que soit la raison, ni pourquoi, ni comment, ni pour combien de temps, tu peux compter sur moi.
Tu peux compter sur moi.
Tu peux compter sur moi,
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 tu peux compter sur moi.
Si jamais tu cherches un refuge,
tu peux compter sur moi.
Une place où personne ne te juge,
tu peux compter sur moi.
Tu trouveras toujours chez moi,
tu peux compter sur moi.
Un endroit qui ressemble à ça,
tu peux compter sur moi.
Si un jour tu sens le besoin,
tu peux compter sur moi.
RCF. Branchez-vous sur l'essentiel.
Voilà, c'était les Chédid, père et fils avec Tu peux compter sur moi. Jean-Paul Chabal, je reviens vers vous donc pour parler de cette campagne de Vivre Ensemble sur les jeunes. Vivre Ensemble a choisi l'image du sac à dos pour faire passer le message de la campagne. Alors pourquoi et comment est-ce que vous nous expliquez ça?
Cette campagne, on a fait la constatation que beaucoup de jeunes se déplaçaient avec un sac à dos pour aller à l'école, pour voyager, pour aller travailler. Quelque part, le sac à dos fait partie de l'ustensile de base de beaucoup de jeunes. On a réfléchi, on s'est dit, mais dans ce sac à dos, qu'est-ce qu'ils transportent? Qu'est-ce qu'ils ont avec eux? Et on s'est dit, mais beaucoup de jeunes transportent des cailloux et beaucoup de jeunes transportent aussi des atouts. Alors tous les jeunes ont des atouts, tous les jeunes ont des cailloux, mais certains ont peut-être des cailloux plus importants que d'autres, etc. Et donc les atouts pour nous, ça pouvait être une famille qui apporte la sécurité affective pour un jeune durant toute son enfance, c'est un réseau d'amis, c'est des compétences qu'on peut valoriser, c'est la confiance en soi, tout ça c'est des atouts que les jeunes peuvent avoir. Et puis les atouts, il y en a sans doute beaucoup, mais on s'est dit, ben c'est vrai, si un jeune a eu un vécu familial plus difficile, ou s'il y a eu des ruptures, des séparations, qu'il a peut-être plus de mal à vivre, ben ça peut être un caillou qu'il a porté. Des problèmes financiers dans la famille, de l'isolement, de l'exclusion, pas d'amis. ou un groupe d'amis qui le pousse peut-être plus à faire des bêtises qu'à faire des choses, entre guillemets, bien. Le déracinement, beaucoup de jeunes qui viennent de pays plus éloignés, qui ne sont pas habitués à la culture de chez nous. Une scolarité peut-être chaotique aussi, etc. Enfin voilà, donc on s'est dit c'est intéressant et c'est un symbole qui peut être facilement compris et qu'on a mis dans plusieurs outils d'animation, qu'on a proposé aussi aux associations de réfléchir avec nous. Tiens, vous, association, les jeunes que vous rencontrez, ils ont quels cailloux, ils ont quels atouts? Quels sont les atouts peut-être que vous parvenez à leur donner, etc. Enfin, voilà, c'est un petit peu toute cette symbolique-là qu'on a voulu mettre en avant.
Vous parliez de déracinement, je reviens alors vers Mathieu Danero. Donc ces jeunes qui fréquentent l'école de devoirs de la Chaumière, ce sont des jeunes déracinés, qu'on appelle des primo-arrivants.
Oui, c'est ça, ce sont des jeunes primo-arrivants donc, qui sont normalement en secondaire, donc qui ont de 12 à 18 ans, et donc qui sont tout fraîchement arrivés en Belgique. Et donc sont considérés primo-arrivants les personnes qui sont ici depuis moins de 3 ans.
C'est ça. Donc déjà, ces jeunes, ils arrivent avec, on parlait de cailloux, avec ce caillou du déracinement. Qu'est-ce qui est le plus lourd à porter pour eux? Est-ce qu'il y a d'autres cailloux dans leur sac à dos?
Oui, il y a ce premier gros caillou du déracinement qui est là et avec lequel ils doivent apprendre à vivre. Ensuite, les autres cailloux, je dirais qu'un gros caillou, c'est sans doute leur situation économique. Je pense que les jeunes primo-arrivants qui sont chez nous sont dans des familles qui ne sont pas les plus aisées de la ville.
Mais ils arrivent en famille, il n'y en a pas qui sont non accompagnés, comme on appelle mineurs.
Ils arrivent en famille, après les familles sont parfois complexes et un peu désarticulées parce que toute la famille n'est pas là. Donc il peut y avoir des problèmes familiaux malgré tout, mais ils ne sont pas tout seuls. En tout cas, très rarement, je n'ai pas de cas là qui puisse parler de ça. Mais donc voilà, ils sont issus de familles qui sont précarisées. Et je pense qu'un autre caillou aussi, c'est le fait d'être, étant donné qu'ils sont déracinés, ils arrivent ici où ils ne sont pas enracinés. Et donc il y a un gros caillou qui est le manque de références. Il faut pouvoir avoir des références communes pour pouvoir fonctionner dans une société. Ça doit être une difficulté en plus, c'est ne pas savoir exactement comment se passent les choses ici, où est-ce qu'ils sont exactement. Et en plus, la langue est un frein. Donc ça, c'est aussi un des... il y a trois gros cailloux, dont la langue qui est...
Et donc à la Chaumière, vous essayez justement de retirer ces cailloux avec eux du sac à dos. Concrètement, qu'est-ce que vous faites avec eux?
Alors concrètement, ce qu'on fait, au départ, le travail est essentiellement axé sur le soutien scolaire. Donc les jeunes arrivent à l'école de devoirs avec les devoirs et les leçons de l'école. Donc il y a tout ce suivi-là, il y a de la remédiation également qu'on fait avec eux, donc du soutien scolaire mais individualisé.
Ils ne sont pas dans des classes passerelles, ces jeunes, en fait, qui débarquent?
Alors normalement, les jeunes sont dans des classes passerelles, donc ce sont des classes qui permettent pendant quelques mois ou un an d'insister sur l'apprentissage du français pour qu'ils puissent intégrer une classe traditionnelle ensuite. Alors le problème, c'est que certains jeunes n'en bénéficient pas et donc ils arrivent en Belgique sans maîtriser la langue et ils sont jetés dans une classe d'enfants francophones avec un programme fait pour les enfants francophones. Ce qui pose problème évidemment, puisqu'ils reviennent avec des devoirs et des leçons complètement inadaptés ou voire même du néerlandais qu'ils ont à apprendre alors qu'ils ne parlent pas français. Donc ça pose un gros problème pour les animateurs qui ne savent pas les aider ou très difficilement. Et donc, avec ces élèves-là qui ne bénéficient pas d'une classe passerelle, on est devant un gros problème pour qu'ils puissent apprendre la langue, qui est normalement apprentissage qui devrait se faire à l'école, qui ne se fait pas, mais donc qui se répercute dans le travail de l'école des devoirs.
Et donc vous faites un peu une école de devoirs spéciale pour eux, avec de l'alphabétisation en français, en fait.
Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a eue l'année dernière, parce qu'on y a été vraiment confronté l'année dernière, et c'est pour ça qu'on a fait appel à Vivre Ensemble. Donc l'objectif est de permettre à ces jeunes d'avoir des moments où on fait des cours intensifs de français langue étrangère. Et donc ça se fait déjà pendant les périodes de vacances scolaires, où on fait des stages de français toute la journée. Et par la suite, l'objectif, c'est de pouvoir permettre de faire des cours, d'organiser des cours ponctuellement, une à deux fois par semaine.
Ok, ben on y reviendra après la deuxième chanson. Je vous propose d'écouter le parcours de Lily, chanté par Pierre Perret.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Voilà, Pierre Perret et Lily. Nous revenons en studio avec Mathieu Danero et Jean-Paul Chabal pour parler des jeunes qui sont au centre de la campagne du Vivre Ensemble cette année. Alors Mathieu Danero, je rappelle que vous travaillez à l'association La Chaumière à La Cône, en particulier avec les jeunes primo-arrivants, donc qui arrivent en Belgique sans connaître la langue, déracinés. On a parlé de leurs cailloux, on pouvait aussi parler de leurs atouts. Qu'est-ce qu'ils développent comme capacité, comme compétence pour aller de l'avant ?
Mais justement, je crois qu'ils ont beaucoup d'atouts, en tout cas, ils arrivent et ils sont, je dirais, tout frais. Ils arrivent avec dans un lieu qu'ils ne connaissent pas et donc on sent souvent qu'ils sont appelés vers la découverte de la ville là où ils se trouvent et des gens avec qu'ils rencontrent ici. Et justement, cet atout, c'est le fait qu'ils veulent apprendre. Mmh. Déjà, tout ce qu'on doit apprendre à l'école et qu'ils veulent apprendre la langue. Donc, dès qu'ils les cours de français qu'on avait organisés dernièrement, pendant les périodes de vacances scolaires, les jeunes sont venus tous les jours et étaient présents. Enfin, il fallait rester quand même 3 heures pendant les vacances assis dans une classe à faire du français et donc ça a marché. Donc, je pense que les atouts c'est qu'ils sont jeunes encore, donc ils ont encore plein de choses.
Tout est possible encore.
Tout est encore possible, mais tout dépend aussi de comment est-ce qu'on les prend en charge, de ce qu'on fait avec eux, de comment est-ce qu'on les accueille, de ce qui est fait à l'école. Là c'est encore un autre problème de ce qui se passe à l'école. Et de notre côté, on essaie de les prendre en charge le mieux possible, en essayant de développer justement cet aspect linguistique le plus possible.
Mmh. Est-ce que vous avez des échos sur la façon justement dont ils sont accueillis dans les écoles et dans leurs classes ?
Je ne me permettrai pas de dire que je sais comment ça se passe exactement, parce que non, ça je préfère ne pas. Je ne sais pas. Je sais pas exactement.
On fait une enquête et vous
on va essayer de faire une enquête, oui, non. Mais il y a des problèmes, puisqu'il y en a qui se retrouvent dans des classes qui ne sont pas adaptés. Donc après, comment se fait-il qu'ils arrivent là? Est-ce que c'est la faute de l'école ou pas? Voilà, je ne veux pas me prononcer.
Okay. Est-ce qu'il y a des parcours comme ça qui vous donnent de l'énergie? On dirait, tel jeune, il s'en est bien sorti, ça justifie le travail
Alors j'ai deux exemples, donc un qui est assez récent, donc on parle ici de deux élèves bulgares qui sont arrivés à l'école des devoirs il y a 2 ans et qui ont passé donc, l'année scolaire en venant à l'école des devoirs tous les soirs après l'école et qui après une année ont continué à... Enfin, ont accroché à l'école, ont continué leur parcours scolaire, sont allés dans une autre école de devoirs qui est faite pour les élèves classiques et qu'on arrive à suivre puisqu'on est partenaire avec l'autre école de devoirs qui nous informe qu'ils sont toujours présents et qu'ils ont des projets d'études et d'études supérieures ensuite et qu'ils ont un projet de vie qui s'est défini. Donc je trouve ça assez bien. Et ensuite, j'ai un autre exemple d'un autre garçon qui est passé par une école de devoirs près de chez nous, donc pas par chez nous exactement, mais quand même qui a un bon exemple de ce qu'on voudrait faire, de ce qu'on pourrait faire. Donc c'est un jeune qui est passé par l'école de devoirs et qui a continué son parcours en restant investi dans l'école de devoirs, même après sa scolarité, et qui aujourd'hui travaille dans une des associations, l'une d'ailleurs qui a fait appel à vous, qui s'appelle Amorce, et qui est donc animateur au sein de l'association. Donc c'est un parcours assez exceptionnel.
Assez chouette,
oui. Et voilà, valorisant.
Oui, tout à fait. Donc Jean-Paul Chabal, on parle de ces jeunes-là du quartier de Laeken, du quartier de Bruxelles, mais pour les jeunes de Bruxelles en général, la situation n'est pas facile du tout par rapport au reste de la Belgique.
Non, je pense que c'est vraiment à Bruxelles que la situation des jeunes est la plus préoccupante. Un seul chiffre à ce niveau-là, ben, il y a 31% de jeunes à Bruxelles qui sont au chômage, donc qui se sentent de plus en plus quand même exclus, éliminés, peut-être humiliés, n'ayant pas leur place dans la société. Je pense qu'il y a différentes raisons à ça. Tout d'abord, c'est important de se rendre compte que Bruxelles est une ville en plein boom démographique. Il y a 126 000 personnes en plus au cours de ces 7 dernières années, donc c'est un chiffre important, et avec surtout un accroissement de la population dans les quartiers les plus touchés au niveau de la pauvreté, hein, le Bas de Saint-Gilles, de Saint-Georges, de Scarbeck, à Molenbeek, à Kerugem, tous ces quartiers-là. Et alors deux autres éléments principaux, je pense, de la difficulté des jeunes, c'est d'abord un système scolaire qui, à mon avis, dysfonctionne à Bruxelles, qui ne permet pas réellement, qui ne donne pas véritablement ses chances aux jeunes, et donc il y a un nombre important de jeunes qui terminent difficilement leur secondaire, qui n'ont pas de diplôme, qui décrochent. Et le marché de l'emploi aussi à Bruxelles est évidemment un marché de l'emploi où on demande des gens hyper qualifiés. Et le manque de formation des jeunes qui habitent Bruxelles, à ce moment-là, est un handicap vraiment important pour pouvoir trouver une place et un emploi dans la société. C'est plus des personnes qui viennent de Wallonie ou d'ailleurs, ou de Flandre, qui ont un emploi parce qu'elles ont les qualifications.
Voilà, donc cette problématique de la formation à Bruxelles, ben la chaumière s'y attelle chaque jour. Donc on va rappeler que l'argent que vous demandez à Vivre Ensemble et donc aux généreux donateurs va servir donc pour ces cours de français pour les jeunes primo-arrivants.
Oui, c'est ça, c'est pour organiser ces cours de français et pour éventuellement engager des professeurs spécialisés en français langue étrangère et peut-être plus spécialisés pour les adolescents. Donc voilà, c'est pour l'organisation de ces cours pendant les vacances et pendant l'année.
Voilà, donc je rappelais que la collecte de l'Avent a lieu dans toutes les églises en Wallonie à Bruxelles le week-end des 15 et 16 décembre pour soutenir ces 89 projets choisis par Vivre Ensemble. Alors Jean-Paul Chabal, quels sont les outils que Vivre Ensemble met à disposition pour animer cette campagne?
Mais il y a plusieurs outils qui sont proposés. Je mettrai en avant plus particulièrement un dossier qui a été très bien fait, je pense, un jeune sur 5, Génération Pauvreté, qui recoupe un petit peu une analyse sur la situation des jeunes en général, et aussi sur des analyses que l'on fait très régulièrement, qui sont d'ailleurs publiées sur le site, un tout nouveau site internet d'ailleurs de Vivre Ensemble et qu'on peut retrouver. Et puis je mettrai peut-être en avant aussi un outil un peu spécial, un photolangage qui permet de faire des animations sur base des atouts, des cailloux et de susciter un petit peu une réflexion sur les jeunes avec tout qui veut le faire.
Merci. Voilà, pour la suite, on va renvoyer nos auditeurs donc, au site internet www.vivreensemble.be où ils trouveront toutes les informations sur la campagne. Mathieu et Jean-Paul, un grand merci d'avoir participé à cette émission.
Avec plaisir.
À très bientôt. Au revoir.
Thank you.